je vais demander à Patricia Barbizet de bien vouloir nous parler de la gouvernance optimale des entreprises privées françaises. Patricia Barbizet a occupé de très nombreuses fonctions importantes dans diverses entreprises et donc elle sait de quoi elle parle lorsqu'elle va nous parler, aussi bien que dans des institutions publiques et des entités de la société civile. Je vais citer un petit nombre des fonctions importantes que Patricia Barbizet a occupées. Elle a été directrice financière de Renault Crédit International. Elle a été directrice générale d'Artemis, la holding du groupe Pinault. Elle a été présidente de Pinault Printemps Redoute, ce qui lui donne la qualité d'être la première femme à avoir présidé une société du CAC 40. Elle a été présidente de Christie's International. Elle est actuellement présidente de la société d'investissement Temaris et Associés. En outre, elle a été, et elle est encore d'ailleurs, je crois, présidente du comité de surveillance des investissements d'avenir. Elle a été nommée en 2018 et elle s'apprête à passer le témoin maintenant, mais c'est la fonction qu'elle occupe actuellement. Elle a été, et elle est, je crois, présidente du Haut Comité pour le gouvernement d'entreprise, HCGE, depuis 2018. Elle est, ou elle sera plutôt dans quelques semaines, présidente de l'Association française des entreprises privées, première femme appelée à accéder à cette importante fonction où elle va succéder à Laurent Burel. Elle a été présidente du siècle dans un ordre d'idées différent de la société civile et elle clairement a été présidente de la Philharmonie de Paris, ce qui montre l'étendue, disons, de ses intérêts, de ses responsabilités et de son action dans notre société. Je lui donne la parole. Patricia, c'est à vous de nous dire ce que vous pensez de la gouvernance optimale des entreprises privées.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres de l'Académie, je vous remercie de votre invitation à cette séance du lundi. Le président Trichet m'a en effet indiqué que vous souhaitiez une présentation sur la gouvernance optimale des entreprises privées françaises sous l'angle du Haut Comité de gouvernement d'entreprise. C'est donc en qualité de présidente du HCGE que je m'exprime aujourd'hui devant vous. Au fil des ans, j'ai été amenée à connaître d'entreprises de secteurs, de dimensions et de nationalités très variées. J'ai assuré la direction exécutive de certaines d'entre elles. Pour les autres, je les ai connues ou les connais actuellement en tant qu'administratrice. Au fil des ans, le contexte économique et social a évidemment été profondément modifié. Le monde change sans cesse, il en va de même pour les entreprises et leur gouvernance. Cette variété d'expériences a nourri ma réflexion sur les bonnes pratiques de gouvernement d'entreprise. Donc, j'utiliserai indistinctement les termes de gouvernance ou de gouvernement. L'étymologie latine des deux termes est identique. Et cette étymologie témoigne de l'ancienneté de la question que nous nous posons aujourd'hui. Au fond, qu'est-ce qu'un bon gouvernement? La République de Platon cherchait déjà à y répondre, puisqu'au livre 6, Socrate propose à Glaucon l'image suivante. Imagine donc quelque chose comme ceci, se passant à bord d'un ou de plusieurs vaisseaux. Le patron, en taille et en force, surpasse tous les membres de l'équipage. Mais il est un peu sourd, un peu myope, et a, en matière de navigation, des connaissances aussi courtes que sa vue. Les matelots se disputent entre le gouvernail. Chacun estime que c'est à lui de le tenir, quoiqu'il n'en connaisse point l'art. Il ne se doute même pas que le vrai pilote doit étudier le temps, les saisons, le ciel, les astres et les vents, s'il veut réellement devenir capable de diriger un vaisseau. Les questions de gouvernance que soulève cet extrait sont, elles, tout à fait contemporaines. Qui tient le gouvernail des grandes entreprises et suivant quelle méthode doit-on désigner ce capitaine? Qui valide les orientations stratégiques qu'il propose? Comment contrôler ses décisions opérationnelles? Dans quelles conditions révoquer le dirigeant qui ne donnerait pas satisfaction? La réflexion sur les modes de gouvernement est ancienne, mais un tel questionnement sur la bonne gouvernance des entreprises est, lui, relativement récent. Jusqu'au mi-temps du XIXe siècle, les entreprises étaient majoritairement possédées et dirigées par un fondateur ou par ses descendants. quatre grandes transformations sont intervenues depuis. Tout d'abord, le capital des entreprises a été progressivement ouvert à des tiers. La production industrielle a changé d'échelle. Les chaînes de valeur se sont mondialisées. Les marchés financiers se sont internationalisés. Et une cinquième mutation s'ajoute à cette liste en France. On a connu un mouvement de privatisation à la fin du XXe siècle. Ces transformations ont mené à une réflexion sur les critères de bonne gouvernance. Et la réflexion est d'autant plus prégnante que la place des entreprises est incontournable dans nos sociétés contemporaines. Elles produisent des biens et des services qui irriguent nos sociétés. Elles génèrent des revenus pour leurs salariés, leurs actionnaires et pour l'État. Les entreprises ont une empreinte dans et sur la société, quel que soit leur secteur d'activité ou leur envergure économique. Cet état de fait appelle des responsabilités sociétales. Il justifie aussi un ensemble de revendications, en particulier sociales et environnementales. Les bonnes pratiques que nous allons examiner s'intéressent aux trois pouvoirs qui cohabitent dans les entreprises. Il y a d'abord le pouvoir des actionnaires, c'est-à-dire des détenteurs de droits sociaux de l'entreprise qui prennent le risque de perdre leurs capitaux. Celui-là ne prend pas de décisions opérationnelles. Celles-ci sont prises par le pouvoir exécutif, la direction générale, qui assure la conduite quotidienne de l'entreprise et la gestion des affaires. Les orientations stratégiques sont examinées et validées par le pouvoir de supervision, c'est-à-dire par le conseil d'administration. Ce dernier pouvoir est central et incontournable. Le CA approuve les orientations stratégiques, il se prononce sur les grands choix de l'entreprise, comme les cessions ou les acquisitions, il nomme ou révoque les dirigeants, et il veille à la qualité de l'information fournie aux actionnaires. Ce trinôme de gouvernance est largement majoritaire dans le monde. Nous nous intéresserons à la répartition des pouvoirs entre ces différentes instances, à leurs rôles respectifs et à leur fonctionnement. Au cours de cette séance, mon propos répondra donc à trois ensembles de questions. Comment les principes de bonne gouvernance ont-ils vu le jour, en France comme à l'étranger? Quelles en sont les grandes lignes? Comment ces principes sont-ils concrètement mis en œuvre dans la vie réelle des entreprises cotées en France? Quel est le rôle du Haut Comité de Gouvernement d'Entreprise, le HCGE, à cet égard? Enfin, quelles évolutions observe-t-on en matière de responsabilité sociétale des entreprises? Et quelles en sont les perspectives pour les années à venir? Avant de répondre à ces questions, je voudrais partager deux observations. La première, c'est que la quête de la bonne gouvernance est illusoire. La bonne gouvernance n'existe pas davantage qu'un remède médical capable de guérir tous les maux. Chaque modèle de gouvernance présente des particularités. Les caractéristiques choisies doivent être adaptées à chaque entreprise et à son environnement. Elles doivent aussi être adaptables, car il est souvent nécessaire d'ajuster la gouvernance d'une entreprise en fonction du contexte stratégique, concurrentiel ou conjoncturel. Seconde observation, la gouvernance n'est pas un objet théorique, c'est une affaire de pratique. Certes, des législations et des règles de droit souples régissent l'organisation des pouvoirs au sein des entreprises, mais la gouvernance n'est pas hors sol. Elle résulte d'un équilibre effectif de rapports de force. Elle se traduit par des décisions stratégiques et des mesures opérationnelles. Ça ne nous empêchera pas de relever les dénominateurs communs aux bonnes et aux mauvaises pratiques de gouvernance. Mais gardons néanmoins à l'esprit que la gouvernance est une matière vivante. Ces remarques faites, commençons par le début, c'est-à-dire par la chronologie des événements. La cristallisation des principes de bonne gouvernance d'entreprise date de 1978 et nous vient des États-Unis. L'American Bar Association publie cette année-là un guide du dirigeant des sociétés cotées. Ce guide fixe une série de principes fondateurs de la bonne gouvernance. Il établit la distinction clé entre le pouvoir exécutif et le pouvoir non exécutif. Il rappelle les vertus attendues d'un dirigeant d'entreprise, telles que l'intégrité et le tact. Il indique, le guide toujours, la nécessité d'un engagement substantiel des membres du conseil d'administration. Il fournit quelques orientations en matière de taille et de composition du conseil et de ses comités. Il ouvre des réflexions, sans beaucoup de précision à ce stade, sur l'articulation entre les différents pouvoirs constitutifs de la gouvernance. Il faut attendre les années 1990 pour que les autres pays développés s'approprient la réflexion sur le gouvernement d'entreprise. Le Royaume-Uni et la France font figure de pionnières en Europe avec deux contributions majeures. Outre-Manche, le rapport de Sir Adrian Cadbury en 1992, puis dans l'Hexagone avec le rapport Viennot en 1995. Je vais y revenir sur le cas français. Les autres membres de l'OCDE s'emparent quelques années plus tard de ces enjeux, à la fin des années 90. Ces travaux se cristallisent en 1999 par l'élaboration d'un guide de l'OCDE sur les principes de gouvernement d'entreprise, régulièrement réédité depuis. Et les bonnes pratiques de gouvernance ont continué d'essaimer au début de notre siècle. En Asie, en Amérique latine comme en Afrique, des associations régionales, dites de Corporate Governance Network, ont vu le jour à peu près partout. Ces associations ont mené à leur tour des réflexions sur le gouvernement d'entreprise. En l'espace d'une trentaine d'années, le monde entier s'est emparé de principes communs de bonne gouvernance des entreprises. Cela ne veut pas dire que ces principes sont unanimement respectés aux quatre coins du globe, mais cela témoigne d'une vision partagée des principales règles de gestion. Les règles et les pratiques se sont rapprochées au niveau mondial pour les très grandes sociétés cotées. Cela ne veut pas non plus dire que les traditions continentales ou les particularités nationales ont entièrement été effacées. En Allemagne, par exemple, le pouvoir de supervision demeure partagé entre les actionnaires et les salariés. C'est le fameux principe de Mitbestimmung, de co-détermination, qui n'a que quelques équivalents dans l'OCDE. Même si certaines traditions demeurent, les principes communs de gouvernance sont désormais très largement répandus dans le monde. Mais revenons à la France, nous sommes en 1995. La FEP et le MEDEF demandent à Marc Viennot de conduire un travail visant, je cite, à examiner dans quelle mesure la pratique française du gouvernement des entreprises appelait des évolutions. Mis au point par un groupe de présidents de sociétés cotées françaises, le rapport Viennot formule un ensemble fondateur de recommandations. Celle-ci place la France dans le mouvement de transformation de la gouvernance des entreprises, dans le sillage des États-Unis et du Royaume-Uni. Le code AFEP-MEDEF est en train de naître. Les recommandations mettent l'accent sur le conseil d'administration. Et trois éléments sont à relever. Premièrement, le rôle du conseil d'administration est clarifié et nettement renforcé. Le rapport charge le conseil d'administration de définir la stratégie, de désigner les mandataires sociaux, de contrôler la gestion et de veiller à la qualité de l'information fournie aux actionnaires et aux marchés financiers. Deuxièmement, le rapport Viennot se prononce en faveur de la création de comités du conseil d'administration. Il recommande en particulier la création d'un comité de sélection des administrateurs, d'un comité de rémunération et d'un comité des comptes. Troisièmement, l'accent est mis sur les droits et devoirs des administrateurs. Et le rapport, notamment, recommande de limiter le nombre de mandats d'administrateurs exercés par chacun des administrateurs. Quatre ans plus tard, l'ouvrage est remis sur le métier par le même Marc Viennot. Le rapport de 1999 constate que les précédentes recommandations sont globalement suivies et il invite à poursuivre la modernisation du gouvernement des entreprises. Une nouvelle fois, le fonctionnement des conseils d'administration est concerné au premier chef. Le rapport recommande d'accorder plus de place aux administrateurs indépendants. C'est la première fois en France que les administrateurs indépendants sont aussi explicitement considérés comme essentiels à la garantie de la prise en compte de l'intérêt de l'ensemble des actionnaires. Le rapport ouvre également la voie à une seconde évolution majeure en France, la distinction plus nette du pouvoir exécutif et du pouvoir de supervision. Il recommande effectivement d'autoriser la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général. Appliquée par 90% des sociétés cotées aux États-Unis de l'époque, au Royaume-Uni, pardon, de l'époque, cette dissociation n'était pas permise par le droit français jusqu'à cette date. Elle le sera à la suite du rapport par la loi de 2001 sur les nouvelles régulations économiques, la loi NRE. Mais le nouveau millénaire ne s'ouvre pas seulement sur cette loi dite NRE. Elle débute par un séisme économique, celui des scandales Enron et WorldCom. La confiance est entamée aux États-Unis comme dans le reste du monde. En France, la confiance est également affectée par les échecs stratégiques et financiers de quelques entreprises des télécommunications et des médias. La FEP et le MEDEF confient donc une nouvelle réflexion à Daniel Bouton pour contribuer à restaurer la confiance. Au-delà de l'impératif moral, C'est un véritable impératif économique pour les économies développées, prises globalement et pour chacune d'entre elles, affirme le rapport Bouton en introduction. Le rapport de 2002 poursuit donc le travail d'amélioration du gouvernement d'entreprise selon le double prisme de la transparence et de l'efficacité. La plupart des recommandations concernant l'indépendance des commissaires aux comptes, les pratiques comptables et la qualité de l'information financière sont citées. Le rapport met à nouveau l'accent sur la composition des conseils d'administration et l'évaluation de leur efficacité. Il fournit en particulier une boussole pour le choix des administrateurs en affirmant qu'un conseil doit être un savant dosage de compétences, d'expérience et d'indépendance au service de l'intérêt de la société et de ses actionnaires. Ce principe sage est devenu désormais incontournable. Le travail d'ajustement des recommandations s'est poursuivi au cours des années qui ont suivi. En 2003, le corpus de recommandations a été consolidé pour constituer le code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées. La crise économique de 2007-2008 s'est accompagnée de nouvelles recommandations en matière de rémunération des dirigeants mandataires sociaux. Puis des objectifs d'égalité entre les femmes et les hommes dans les conseils ont été fixés en 2010, puis élargis et renforcés. En 2013, le principe de vote des actionnaires sur les rémunérations, dites « say on pay », a été établi, et depuis 2016, la responsabilité sociale et environnementale, la RSE des entreprises, occupe une part importante de la scène de la bonne gouvernance, et j'y reviendrai tout à l'heure. Ce que je viens de brosser à grands traits, c'est une évolution profonde et fluide de la gouvernance des entreprises cotées, qui s'est construite dans le temps par touches successives. Les pratiques des sociétés, les recommandations des associations patronales et la législation française se sont influencées et articulées avec minutie. Elles se sont déployées dans une logique de consensus. Voilà 10 ans que les révisions du code AFEP-MEDEF donnent lieu à une large consultation, notamment des pouvoirs publics, des associations d'actionnaires, des investisseurs, des agences de conseil en vote et d'autres. Mais ce consensus est loin d'être mou. Le code AFEP-MEDEF présente un ensemble de recommandations exigeants et précis sur le gouvernement d'entreprise. Aujourd'hui, près de 30 ans après le premier rapport Vienno, il est adopté par la quasi-totalité des sociétés du SBF 120. Et le résultat est là. La France est aujourd'hui dans le peloton de tête de la bonne gouvernance des entreprises. C'est un atout qui permet à nos grandes entreprises de se hisser parmi les premières du monde dans leur domaine. Je l'ai moi-même vécu pendant 3 décennies aux côtés de François Pinault. L'entreprise de négoce de bois est devenue en quelques années le 3e acteur mondial du luxe. Et la qualité de sa gouvernance et sa grande souplesse ne sont évidemment pas étrangères au développement exceptionnel de cette entreprise. La qualité de la gouvernance des entreprises françaises est un travail collectif, un travail d'équipe. J'ai cité l'action des associations patronales. Je pense aussi à l'action des pouvoirs publics, notamment de l'autorité des marchés financiers, qui participent grandement à l'élaboration d'un corpus de gouvernance en dialogue avec le HCGE. Diverses associations professionnelles participent également de la qualité de la gouvernance par leur contribution aux travaux de place. On peut citer, pardonnez les acronymes, l'IFA, le CLIF, l'IFR, l'ANSA, le HCJP, Paris Europlace, le Club des juristes et d'autres. Ces associations jouent un rôle décisif dans le partage des bonnes pratiques et la diffusion d'une culture commune de l'excellence. Je m'y suis investie et j'y demeure très attachée. Enfin, aux côtés des émetteurs, les investisseurs jouent un rôle fondamental pour faire avancer les pratiques. Les agences de conseil en vote font aussi partie de cet écosystème et nous devons nous assurer de leur indépendance. La France est dans le peloton de tête, mais ça ne signifie pas que de mauvaises pratiques de gouvernance n'existent pas en France. Au cours de ma carrière, j'ai relevé une série d'écueils funestes en matière de gouvernance. Je qualifie ces écueils de funestes car les défaillances de gouvernance peuvent causer la ruine d'une entreprise. Nous nous souvenons tous des conséquences du tournant stratégique d'Alcatel en direction d'une entreprise sans usine. Et je vous livre brièvement 4 types d'écueils. Le premier, l'impréparation de la succession à la tête de l'entreprise. Cette impréparation conduit, en cas de départ soudain du dirigeant, aux errements du gouvernail et donc du navire. Deuxième écueil, une priorisation excessive des objectifs de court terme. Si l'on n'entretient pas la coque du navire ou si l'on n'investit pas dans un nouveau modèle de propulsion, notre bâtiment se dirige droit vers l'abîme à moyen ou long terme. Cet écueil est bien connu. Troisième écueil, le flou dans la répartition des responsabilités. Si les rôles de chacun ne sont pas clairs, ou s'ils ne sont pas respectés entre le pouvoir des actionnaires, le pouvoir exécutif et le pouvoir de supervision, alors le processus de décision de l'entreprise en sera grippé et pourra conduire à de mauvaises décisions. Quatrième écueil, le manque d'humilité et de mesure des dirigeants. L'absence de ces vertus conduit à des erreurs manifestes d'appréciation. Comme l'affirmait le cardinal de Richelieu, il faut écouter beaucoup et parler peu pour bien agir au gouvernement d'un État. Autrement dit, l'écoute, l'exemplarité et la tempérance sont requises. C'est également vrai dans les entreprises. Plus l'envergure et la visibilité de l'entreprise est grande, plus ses défaillances sont préjudiciables à l'économie de marché. Nous avons vu tout à l'heure l'impact des défaillances de grandes entreprises cotées au tournant du XXIe siècle, et quelques échecs sont susceptibles d'affecter la confiance dans l'ensemble du système. Ces effets de bord sont aujourd'hui démultipliés par le contexte médiatique contemporain. Alors comment prévenir et limiter ces effets de bord ? Au-delà de la rigueur individuelle des dirigeants, le droit dur des législations et le droit souple du code AFEP-MEDEF sont des réponses à cette question. Mais la régulation professionnelle de la gouvernance nécessitera également un travail collectif de vigie et de conseil. Je dis bien de vigie et de conseil, car il faut veiller au respect des règles de bonne gouvernance, mais aussi aider les entreprises à les mettre en œuvre efficacement. Ce travail est assuré par le Haut Comité de gouvernement d'entreprise. Institué en 2013, le HCGE suit avec vigilance l'application du code AFEP-MEDEF et accompagne les sociétés dans leur application. Le Haut Comité a en effet pour mission d'assurer le suivi de la mise en œuvre du code AFEP-MEDEF et son application aussi rigoureuse que possible par les sociétés qui choisissent de s'y soumettre. Nous veillons donc à l'application effective de la règle fondamentale de gouvernement d'entreprise, qui est le principe « appliquer ou expliquer ». C'est là la particularité du droit souple que promeut le Haut Comité en application du code AFEP-MEDEF. Il s'agit d'inciter sans contraindre, afin que les entreprises adoptent des pratiques vertueuses qui correspondent à leurs besoins et à leurs spécificités. Dans l'exercice de cette mission, et afin de vérifier que les sociétés se référant au code en respectent bien et la lettre et l'esprit, nous intervenons au HCGE de trois manières. Tout d'abord, nous dialoguons avec chacune des sociétés qui décident de se référer au code. Soit l'année dernière avec 103 sociétés du SBF 120, dont 35 sociétés du CAC 40. Le code est un référentiel de plus en plus répandu et le dialogue s'étend aussi à des sociétés cotées de taille moins importante. Nous intervenons à la fois de notre propre initiative et en réponse à des consultations d'entreprises. Les modalités de ce dialogue peuvent être informelles, ce qui permet d'anticiper des difficultés potentielles. Elles peuvent aussi être plus formelles, telles l'envoi de lettres aux sociétés concernées, afin de nouer un échange sur des pratiques qui nous semblent soulever une difficulté. Ensuite, nous intervenons sur des situations particulières, telles que les conditions de départ d'un dirigeant, les conflits d'intérêts, l'indépendance des administrateurs ou les politiques de rémunération. Nous agissons soit à la suite d'une saisine d'une société concernée ou d'un tiers, soit d'une auto-saisine lorsque nous estimons nécessaire. En pratique, le HCGE est notamment saisi par les conseils d'administration ou de surveillance des sociétés. Il peut aussi s'auto-saisir afin d'appeler l'attention des sociétés sur les poids du code qu'elles n'appliquent pas sans donner une explication suffisante. Cette intervention nous conduit alors à rendre un avis, et celui-ci peut ou non être rendu public. Enfin, nous élaborons chaque année un rapport annuel qui assure le suivi des pratiques des entreprises et la mise en avant des bonnes pratiques attendues. Il contribue à la réalisation des missions du Haut Comité. Ce rapport est divisé en deux parties. La première dresse un rapport de l'activité du HCGE au titre de l'année écoulée. C'est l'occasion pour nous de faire un état des lieux des saisines et des auto-saisines et des objets sur lesquels elles ont porté. Nous exposons aussi la doctrine du HCGE telle qu'elle est élaborée, saisine après saisine, discussion après discussion. Nous attirons l'attention sur les recommandations du Code qui seraient insuffisamment appliquées. En ce sens, le rapport constitue, avec le guide d'application du Code qui est élaboré par le HCGE, un support sur lequel les sociétés concernées peuvent en toute confiance fonder leur comportement. Au-delà, le HCGE aborde dans ce rapport les thématiques qui lui paraissent essentielles. Et dans ce rapport, le comité évoque les thèmes de réflexion retenus pour l'année suivante. Et nous participons ainsi à la réflexion de place sur l'évolution des règles de gouvernance. La seconde partie du code du rapport dresse un état des lieux des pratiques des entreprises qui se réfèrent au code AFEP-MEDEF, une sorte de bibliothèque permanente de qui fait quoi. Elle est élaborée avec l'aide des équipes de la FEP et du MEDEF. Elle permet d'étudier l'évolution de la gouvernance et les statistiques qu'elle contient donnent une mesure de la progression des bonnes pratiques des grandes entreprises. Le HCGE a également pour mission d'interpréter la lettre du code AFEP-MEDEF lorsque cela s'avère nécessaire. Et dans cette optique, nous élaborons un guide d'application que nous enrichissons régulièrement. Ceci nous conduit à attirer l'attention de l'AFEP et du MEDEF, rédacteurs du code, sur des situations particulières en ce qu'elles peuvent servir d'exemple. Nous exerçons notre mission avec pragmatisme grâce à ce principe clé, se conformer ou se justifier. C'est le fameux comply or explain anglo-saxon. C'est une réponse au constat qu'une bonne pratique n'est pas universelle. One size does not fit all. Le principe appliquer ou expliquer permet de tenir compte des particularités propres à chaque organisation ou à chaque situation particulière. Il ne remet bien sûr nullement en cause les grands principes de gouvernance. Mais notre pragmatisme s'accorde avec notre rigueur. Lorsque les sociétés persistent à s'écarter des recommandations significatives du Code, nous pouvons recourir exceptionnellement au name and shame, c'est-à-dire à la publication des récalcitrants. La pratique est très rare, bien sûr, mais c'est une pratique doublement efficace car elle est à la fois curative et préventive. Selon la situation, le comité rend public ses avis ou non sur son site et dans le rapport annuel. Je constate que le HCGE contribue efficacement à la diffusion des bonnes pratiques de gouvernement d'entreprise, puisque la conformité des recommandations du Code est en constante amélioration. Et c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi à l'étranger. J'ai l'occasion de le relever dans le cadre du dialogue européen des Seven Steer Group, qui regroupe mes principaux homologues européens, et nous nous réunissons une fois par an pour savoir où on en est et comment ça se passe. Et donc, on étudie entre nous quelles sont les meilleures pratiques, comment sont-elles partagées, et surtout, quelles sont aussi les attentes futures des actionnaires ou des différentes parties prenantes. Ces pratiques aussi nous ont conduit à regarder, à considérer en particulier les rémunérations des dirigeants, puisqu'il s'agit d'un sujet de vigilance constante pour le Haut Comité. Nous multiplions les échanges avec les sociétés et nous entretenons un dialogue nourri avec leurs dirigeants, comme avec d'autres acteurs de la place. Nous insistons sur un ensemble de principes importants. Je n'en citerai que deux. D'abord, les sociétés doivent disposer d'un comité de rémunération et il est recommandé que le président de ce comité soit indépendant et qu'un administrateur salarié en soit membre. Ensuite, il est indispensable d'organiser une information fiable et claire sur les parts fixes et variables de la rémunération, notamment à l'appui de critères quantifiables et précis. J'observe que ces deux principes sont désormais très largement respectés. Le HCGE est également mobilisé sur les règles de composition du conseil d'administration. Chaque conseil doit définir l'équilibre souhaitable de sa composition, notamment en termes de diversité. Par diversité, j'entends la représentation des femmes et des hommes, mais aussi des nationalités, des âges, des qualifications et des expériences professionnelles. Bien entendu, les attentes du marché et des parties prenantes doivent être formulées dans le respect de la loi française en matière de traitement des données personnelles. La totalité des sociétés cotées françaises respectent désormais le seuil de 40% de femmes au sein du Conseil, tel qu'il avait été défini par le Code, puis repris par la loi Copé-Zimmermann en 2011 et enfin par la régulation européenne. En 2020, une politique de mixité a été introduite dans le Code pour les comités exécutifs, avant que la loi Rixin de 2021 ne fixe des règles obligatoires. Les critères de composition des conseils dépassent les enjeux de diversité. Et il est particulièrement important que les sociétés veillent à l'indépendance d'au moins un tiers de leurs administrateurs, voire d'au moins la moitié dans les sociétés au capital dispersé ou dépourvues d'actionnaires de contrôle. Il est aussi de bonne gestion que les sociétés se dotent d'un administrateur référent lorsqu'elles font le choix de l'unicité des fonctions de président et de directeur général. Au total, les conseils d'administration d'aujourd'hui sont bien différents de ceux que j'ai pu connaître en début de ma carrière ou même de ceux des années 90. Ces instances sont désormais composées selon une double logique d'excellence et de complémentarité des compétences. Et les matrices de compétences des administrateurs se sont généralisées et sont publiées dans les rapports, dans les documents de référence. Elles s'articulent avec les évolutions stratégiques des entreprises pour les accompagner au mieux. Le nombre de mandats des dirigeants s'est aussi significativement réduit. La plupart des dirigeants exécutifs n'exercent qu'un seul mandat, le leur, ce qui leur permet de se concentrer sur leurs tâches et d'éviter les situations de mandats croisés, tant décriées par le passé. Le visage de ces instances ont également changé. Lorsque j'ai rejoint Renault Véhicules Industriels à la fin de mes études, je crois qu'il y avait moins de 20 femmes cadres dans une entreprise qui comptait près de 30 000 salariés. Les femmes sont demeurées très peu nombreuses pendant très longtemps. J'ai souvent été pionnière aux côtés de quelques autres. Et le devoir des pionnières, c'était de veiller à ce que la porte ouverte reste ouverte pour toutes les femmes qui nous suivaient. Et la société a changé progressivement. Le code AFEP-MEDEF, puis les lois Copé-Zimmermann-Eriksen ont favorisé cette évolution. La marche vers l'égalité au sein des conseils d'administration, comme au sein des comités exécutifs, s'est accélérée. Les visages de ces instances ont bien changé, mais nous pouvons faire, je pense, encore mieux dans les années à venir. Avant de conclure, je voudrais traiter un sujet majeur qui est celui de la responsabilité sociale et environnementale. Ce n'est pas une question nouvelle. Il y a plus de 100 ans, Henry Ford affirmait déjà que l'entreprise doit faire des profits, sinon elle mourra. Mais si on tente de faire fonctionner une entreprise uniquement avec le profit, alors elle mourra aussi, car elle n'aura plus de raison d'être. Et je partage cette conviction. L'entreprise a une raison d'être qui ne se limite pas au seul profit. C'est aussi la conviction qu'exprimait l'excellent rapport de Jean-Dominique Senard et Nicole Notat en 2018. Leur formule était aussi concise que précise et complète. L'entreprise a une raison d'être et contribue à un intérêt collectif, qui n'est pas l'intérêt général, bien sûr, mais qui est celui de l'ensemble des parties prenantes. Un ensemble de parties prenantes qui formule des attentes croissantes vis-à-vis des entreprises. Et le cadre juridique français a été remodelé à la suite des recommandations du rapport Notat-Senard. La loi Pacte 2019 a apporté trois innovations législatives clés. La loi consacre la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qui doivent maintenant gérer dans leur intérêt social, mais en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Enfin, une raison d'être peut désormais être inscrite dans les statuts de l'entreprise. Cette inscription implique un travail préalable de réflexion sur les valeurs de l'entreprise et son impact sociétal. Enfin, la loi Pacte a institué la qualité de société à mission, qui est un choix de modèle de société qui implique une gouvernance spécifique, incluant la mise en place d'un comité de mission et d'une évaluation indépendante de cette démarche ESG. Selon le baromètre de l'Observatoire des sociétés, 726 sociétés en France ont déjà choisi cette qualité de société à mission. Mais cette problématique ESG soulève de nouvelles questions. Deux sont au cours des débats aujourd'hui. Le premier, c'est le partage de la valeur. La responsabilité sociétale des entreprises pose la question du partage de la valeur au profit de l'ensemble des parties prenantes, au-delà des seuls actionnaires. Ce partage de la valeur est au centre des préoccupations des entreprises et il doit continuer à l'être. Cela matérialise leur première responsabilité sociétale. La valeur qu'elles participent à créer par l'innovation bénéficie à l'ensemble de la société. Le HCGE, dans le cadre de ses missions, a évidemment vocation à contribuer à la réflexion à l'œuvre sur ces questions. Le débat concerne en second lieu la prise en considération par les sociétés des enjeux climatiques contemporains. Au cours des 20 dernières années, deux étapes importantes ont été franchies dans les réponses apportées par des entreprises au titre de leur responsabilité sociétale, celle du reporting et celle de l'action. Une première étape a consisté à travailler sur la publication d'informations quantitatives, puis qualitatives en matière de RSE, et le droit français a fait partie des pionniers en la matière. La loi relative aux nouvelles régulations économiques a chargé les sociétés cotées de publier des données sur la prise en compte des conséquences sociales et environnementales de leur activité. Ces dispositions ont été renforcées au cours des Grenelles des années 2000, et depuis une dizaine d'années, l'Union européenne est devenue le principal vivier d'élaboration des nouvelles normes de reporting extra-financier en écho aux attentes plus fortes. Je veux parler bien sûr de la directive NFRD, la déclaration de performance extra-financière, et la directive CSRD, le rapport de durabilité. Ces directives européennes cherchent en particulier à renforcer la fiabilité, l'accessibilité et la pertinence des informations ESG. La deuxième étape est davantage stratégique. Elle consiste à ancrer les enjeux ESG au cœur de la gouvernance des entreprises. Mon sentiment est que les entreprises françaises ont désormais pris la pleine mesure de leurs responsabilités, qu'elles soient sociales, sociétales ou environnementales, et traduisent cette responsabilité dans des engagements et des plans d'action concrets. Nous passons ainsi d'une logique descriptive à une logique d'action, et chacun des pouvoirs de l'entreprise participe à cette transformation profonde. La dernière modification du code AFEP-MEDEF s'inscrit dans une telle dynamique, puisqu'il y a eu cinq modifications La direction générale est chargée de proposer au conseil d'administration des orientations stratégiques pluriannuelles en matière de responsabilité sociale et environnementale. Elle présente des modalités de mise en œuvre sur cette stratégie et informe annuellement des résultats. Deuxièmement, le code confie au conseil d'administration le rôle de garant de la mise en œuvre de la stratégie RSE des entreprises. Et ce rôle est renforcé dans le domaine climatique, puisque le conseil est appelé à examiner chaque année les résultats obtenus et l'opportunité d'adapter le plan d'action. Troisièmement, le code AFEP-MEDEF établit le principe d'une présentation de la stratégie climat à l'Assemblée générale des actionnaires, au moins tous les 3 ans ou en cas de changement significatif de la stratégie. Quatrièmement, la rémunération des dirigeants doit désormais intégrer, parmi les critères liés à la RSE, au moins un critère en lien avec les objectifs climatiques de l'entreprise. Et enfin, une politique de formation des administrateurs sur ces sujets doit être mise en œuvre. Vous voyez que la gouvernance est absolument à tous les endroits. Que de changements ! Nouveau chapitre de la gouvernance est en train de s'écrire devant nous. Nous tournons la page de la contestation du greenwashing, de l'éco-blanchiment social ou environnemental. Même si des pratiques demeurent encore à l'étranger, quelquefois, nous sommes en train de les mettre à l'index, au sens propre comme au sens figuré. Et fidèle à ces traditions, la France se place dans le peloton de tête de ces transformations profondes, et là encore, le HCGE a son rôle à jouer. Non pas pour ajouter des règles, mais pour contribuer au débat, et surtout pour guider les sociétés dans leur mise en œuvre. Le pouvoir d'application et d'interprétation du code par le HCGE est l'occasion d'un dialogue et d'une amélioration des pratiques existantes. Les évolutions ne peuvent pas être seulement juridiques, elles doivent être surtout et avant tout dans les faits. Le HCGE a reconnu comme priorité le suivi des recommandations du code lié à la RSE et nous sommes très attentifs à ce que ces enjeux soient pleinement pris en compte. 2 indicateurs sont particulièrement suivis. Le premier, c'est que le pouvoir de supervision s'est emparé de ces enjeux. L'an dernier, 69% des entreprises du BF 120 disposaient d'un comité RSE spécialisé parmi les comités du conseil d'administration. Le deuxième, la RSE s'intègre résolument à la rémunération et les critères environnementaux sont quasiment généralisés dans la rémunération variable des dirigeants. C'était déjà le cas pour 81% des entreprises du SBF et 91% des sociétés du CAC 40 en 2021. Évolution majeure. Mais beaucoup reste encore à faire, bien entendu. L'information des comités d'audit sur l'exposition aux risques sociaux et environnementaux reste encore insuffisante dans certaines sociétés. Par ailleurs, la proportion de sociétés ayant un administrateur salarié au sein du comité en charge des rémunérations doit continuer à augmenter. Les sociétés du SBF 120 intègrent à plus de 90% les critères de RSE dans la rémunération de leurs dirigeants, mais ces critères doivent être encore définis de manière probablement plus précise et plus lisible pour être mieux intégrés. Plus largement, nos sociétés ont encore un peu de travail pour renforcer les liens entre les enjeux sociétaux, les modalités de reporting, les préférences des investisseurs et la stratégie des entreprises. Mais j'ai la conviction que ce travail mobilisera toutes les parties prenantes tout au long de la décennie 2020. Les pouvoirs publics, les investisseurs, les entreprises, les salariés, la société civile, chacun d'entre nous a une partition à jouer dans cette grande transformation. Et bien sûr, le HCGE jouera pleinement la sienne pour contribuer à la régulation professionnelle de la gouvernance. Cette large mobilisation conduit certaines entreprises à se doter de nouvelles instances qui enrichissent leur gouvernance, et je pense en particulier au comité des parties prenantes. Celles-ci peuvent éclairer l'élaboration de la stratégie des entreprises et se font de plus en plus fréquentes. Chacun d'entre nous a une partition à jouer, mais chacun dans son rôle et chacun à sa place. J'indiquais tout à l'heure que le flou dans la répartition des responsabilités pouvait être délétère. Il faut donc être vigilant à ce que de nouvelles instances de gouvernance, comme les comités, les différents comités ou les comités de mission, n'introduisent pas de confusion dans les attributions de chacun. Le pouvoir des actionnaires, le pouvoir exécutif, le pouvoir de supervision doivent être constamment, nettement et pleinement exercés. Voilà, je conclurai cette intervention par 4 messages généraux. Premièrement, la régulation professionnelle concertée mise en place ces 30 dernières années a fait ses preuves. Le code AFEP-MEDEF a joué et joue toujours un rôle clé dans l'évolution des pratiques de bonne gouvernance. Ce référentiel assure la diffusion des meilleures pratiques et permet l'amélioration de la gouvernance de ces sociétés. Deuxièmement, l'édifice de la gouvernance des entreprises repose sur une clé de voûte, le conseil d'administration. Son rôle est incontournable, aussi bien en matière de stratégie que de contrôle ou encore de communication financière. Les grands échecs d'entreprise vont généralement de pair avec une défaillance du conseil. Ce rôle pivot explique un grand nombre de bonnes pratiques concernant sa composition, son organisation, son fonctionnement. La décennie RSE devra et pourra compter sur cet organe décisif. Troisièmement, le pragmatisme doit prévaloir sur le dogmatisme. Dans la vie des affaires, les problèmes rencontrés ne sont pas théoriques. Ils sont incarnés, ils concernent un tel ou une telle, cette action-ci ou celle-là. Les réponses apportées doivent donc tenir compte des spécificités de l'entreprise et de son contexte. Nous devons être vigilants à ce que l'effort des parties prenantes aboutisse à des solutions pragmatiques pour les questions de RSE, comme pour les autres enjeux d'abord. Enfin, j'aurais insisté sur deux conditions sine qua non bonne gouvernance. Un juste équilibre entre les différentes instances de gouvernement, ça c'est la première, et la deuxième, c'est des femmes et des hommes engagés à la hauteur de leur mission, qui se saisissent des problèmes et qui les règlent. Deux conditions qui sont aisées à énoncer, mais qui sont exigeantes et parfois difficiles à remplir dans les faits, et il faut pourtant s'y astreindre à les remplir. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame Barbizet, pour cet exposé très nourri, très, comment dirais-je, complet, et qui résume finalement non seulement votre action d'aujourd'hui, mais ce que vous avez observé vous-même, comme plusieurs chefs d'entreprise qui vous écoutent, sur les transformations de la gouvernance d'entreprise dans notre pays et dans le monde.